Je m'attaque en 5 épisodes à l'année 2003. Dans mon escarcelle aujourd'hui, Jacques Chirac en guerre contre le cancer, et donc contre la clope. La tour Eiffel en feu, la fin du Concorde, et Florent Pagny qui a le fisc aux trousses.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2003.
En 2003, Jacques Chirac, fraîchement réélu président de la République, déclare la guerre au cancer.
Suite du journal, Jérôme Chapuis.
Dans l'actualité de ce lundi également, le plan anti-cancer de Jacques Chirac. 150 000 Français en meurent chaque année. 70 mesures ont été présentées ce matin pour réduire le nombre de victimes. Après la route, c'est un autre grand chantier du président de la République. Jacques Chirac l'a lancé en personne ce matin à l'Élysée.
Le cancer, c'est la vie menacée. C'est en quelque sorte le destin qui frappe. Ce sont des priorités que l'on a relativisées et des espérances qui s'éloignent. C'est la peur pour soi, c'est la peur de perdre ceux que l'on aime, de ne plus être là pour les aider, les protéger. Soigner le cancer, guérir le cancer, c'est une école d'humilité et de détermination. C'est un acte magnifique d'humanité. Grâce à la recherche, le cancer finira par être vaincu, comme beaucoup d'autres maladies. N'épargnons rien pour nous rapprocher de cet objectif. Peu de victoires compteront autant pour nous et pour les générations futures.
Et dans la lutte contre le cancer, la priorité du gouvernement, c'est le cancer du poumon, qui tue 30 000 Français par an. Chirac veut que les Français suivent son exemple et arrêtent de fumer. Le 25 juin 2003, pour la première fois, on écrit « Fumer tue » sur les paquets de cigarettes.
Ce matin, les premiers paquets nouveaux modèles sont arrivés dans certains bureaux de tabac. Aucune modification dans l'habillage du paquet, mais un avertissement de 3 mots, le tabac tue, réaction de fumeur.
Et non, je le sais déjà. C'est lamentable. Je suis d'accord.
C'est l'autre qui est derrière qui dissuade plus. Ah non, c'est parce qu'il y en a un, c'est fumer, comment ça s'appelle, empêche le sang de circuler et provoque l'impuissance. Ah ça, c'est plus radical par contre, je pense.
Ce qui pourrait plus dissuader, c'est plutôt que la phrase, c'est comme au Canada, d'image de poumon.
À ce message percutant s'ajoute l'aspect visuel de l'avertissement, qui n'est pas sans rappeler celui d'un faire-part de décès.
Et c'est pas fini. Toujours en 2003, le gouvernement vote une loi qui interdit la vente des cigarettes aux mineurs de moins de 16 ans. Et au Mans, initiative originale d'un proviseur, il instaure une zone fumeur dans son lycée, mais sur autorisation des parents.
Les élèves doivent demander une autorisation de fumer au proviseur, à moi-même, accompagnée d'une photo. S'ils sont majeurs, ils la signent eux-mêmes, cette autorisation. Sinon, s'ils sont mineurs, elle doit émaner des parents. À partir de là, on leur constitue une carte de fumeur qui leur donne accès à cette zone fumeur qui est strictement réservée aux fumeurs et aux seules récréations. Donc finalement, on s'aperçoit que l'année passée, on avait peut-être la moitié des élèves qui fumaient. Aujourd'hui, on n'a que 28 élèves, moins de 10% d'effectifs, qui ont fait cette démarche.
Certains vivent mal ces contraintes ?
Bien sûr. J'ai un collègue qui m'a dit « tu veux leur faire porter l'étoile jaune ». J'étais très très en colère parce que vraiment c'est des procédés d'amalgame, d'histoire qui me semblent tout à fait ridicules. C'est absolument moralement inacceptable qu'une école soit le lieu où on apprenne à fumer. C'est pas acceptable.
Et régulièrement, dans cette zone fumeur, on procède à des contrôles inopinés. Veuillez présenter votre permis de fumer, s'il vous plaît.
Je trouve ça débile de dissocier les fumeurs des autres, quoi. On est mis à part, quoi. C'est un peu comme si on était mis en quarantaine, donc je trouve pas ça très très sympa, quoi, par rapport aux autres. Enfin, je sais pas.
Je compte la faire là, parce que maintenant, voilà, on peut plus fumer avec leur truc de merde. C'est nul. Se mettre là pour fumer, on a l'air con. On fait un pas dehors, on a droit de fumer. On fait un pas à l'intérieur, on a plus droit de fumer. C'est tout pourri.
Julien, 16 ans, fait partie des grands frustrés. Papa-maman ont refusé l'autorisation parentale.
Ils ont pas voulu me faire le mot, comme je suis mineur, ils ont pas voulu me faire le mot. Quoi. Ça me fait fumer, moi. Je voyais l'an dernier, il n'y avait pas de carte, il y avait une centaine de fumeurs, là, il n'y en a plus qu'une vingtaine, quoi, une trentaine. Donc ouais, c'est positif. Ouais.
Le permis de fumer est un permis à coins. Chaque infraction égale un coin écorné. La disparition des 4 coins est synonyme de suspension d'autorisation tabagique. Ici, on ne badine pas avec le règlement. Arnage, François Coulon, Europe.
Autre mesure forte envisagée pour dissuader les fumeurs, toucher à leur portefeuille. Mais est-ce que ça marche ?
Le paquet de cigarettes pourrait coûter 10 euros, ça ne dissuaderait pas les plus accros. Voilà ce que démontrent les expériences de hausse des tarifs menées dans différents pays d'Europe, sauf bien sûr à rendre le paquet inaccessible. En revanche, à chaque augmentation, le nombre de fumeurs diminue. C'est systématique et plus la hausse est élevée, plus le nombre de fumeurs qui décrochent est important. C'est ce que constate l'épidémiologiste Catherine Hill.
En gros, on augmente les prix de 10%. On baisse la consommation de 3%. On augmente les prix de 20%, on baisse la consommation de 6%, etc. Si on fait une augmentation de 25% chaque année, on va voir baisser la proportion de fumeurs bien régulièrement, chaque année, de peut-être 10%. Et comme ça, on va atteindre les objectifs du plan cancer, qui était une baisse de 20% chez les adultes et de 30% chez les adolescents.
Si ces statistiques se vérifient, 6% des fumeurs devraient arrêter après l'augmentation d'octobre, soit environ 900 000 personnes, ce qui équivaut en nombre à la moitié des Parisiens. La hausse du prix du tabac a donc un vrai impact. Les pharmaciens le constatent eux aussi. Juste après une augmentation, ils vendent 30% de patch en plus.
Et donc, le gouvernement taxe encore plus les cigarettes, qui augmentent de 20%. En un an, le prix du paquet de clopes est passé d'environ 3,50 euros à 5 euros. Et effectivement, ça marche. Si des gros fumeurs restent toujours addicts, les autres tentent d'arrêter.
Tous les moyens sont bons. Patch, livre, conseil, thérapie, les fumeurs ont massivement décidé de se débarrasser de leur drogue. D'ailleurs, le calcul est simple.
J'ai économisé 2000 francs par mois, c'est-à-dire 24 000 francs par an, c'est-à-dire 240 000 francs tous les 10 ans.
Emmanuel a donc décidé de suivre une thérapie, en l'occurrence celle du spécialiste anglais Alan Carr. Une session de 4 heures au bout de laquelle on est censé ne plus jamais avoir envie de toucher à la cigarette. Son livre connaît d'ailleurs un énorme succès dans les librairies. Julie Potra du Virgin Megastore.
Le Carr, on le vend énormément, oui. Avant, il la demandait 5 à 10 fois par jour. Maintenant, on nous la demande plus de 20 fois par jour. Quand les clients viennent, ils nous disent « J'ai un ami qui a réussi à s'arrêter de fumer grâce à la méthode Carr, est-ce que vous l'avez ?»
Les patchs, on s'y met aussi, spécialement depuis 2 jours. 18 euros pour 2 semaines, c'est le prix de 4 paquets de cigarettes. Jamila, pharmacienne sur les Champs-Élysées.
Ils viennent nous demander des renseignements sur les prix, comment ça marche. Enfin, ils sont décidés à vouloir arrêter de fumer. Ils ne peuvent pas suivre la hausse des prix des paquets de cigarettes.
Des bonnes résolutions qui s'accompagnent de premiers résultats. L'augmentation du prix du tabac du 6 janvier dernier a provoqué une baisse de 7,7% des ventes.
Mais évidemment, avec cette baisse de la consommation de cigarettes, il y en a qui ne sont pas contents. Les buralistes. Durant l'été 2003, ils commencent à pester contre le gouvernement.
Aujourd'hui, le gouvernement nous met en pleine tête, en 2 mois de temps, le message sanitaire, la loi des moins de 16 ans, plus 20% d'augmentation. Qu'est-ce que vont devenir les débitants ?
Les buralistes sont furax et c'est toujours pas fini. 3 mois plus tard, à l'automne 2003, c'est reparti. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonce que les cigarettes vont encore augmenter de 20% au 1er janvier.
Quand je fais un plan anti-cancer, il me faut augmenter les prix du tabac. Il me faut augmenter les prix du tabac jusqu'à un seuil de dissuasion. Mais il ne me faut pas détruire le réseau des buralistes. Les buralistes ne sont pas responsables de cette situation. Et donc, il faut que je trouve la réforme juste, celle qui va jusqu'au seuil de dissuasion. Quand on dépasse les 5 euros, c'est-à-dire quand on passe de la pièce au billet, là, on franchit un seuil. Et c'est pour ça que nous avons fait cette hausse, pour faire baisser la consommation de tabac, parce qu'on sait que le tabac conduit au cancer. Mais de l'autre côté, je fais une réforme juste parce que je m'occupe des buralistes. Je ne laisse pas indifférents à leur avenir. C'est ça la réforme juste.
Est-ce qu'ils auront d'autres activités que la vente du tabac ?
Bien sûr, et sur le plan administratif, ils sont partenaires de l'État parce qu'ils récoltent un certain nombre de produits fiscaux. Ils sont donc des partenaires, des agents de l'État en partie de leur activité. Donc l'État a des responsabilités vis-à-vis d'eux. Et donc oui à l'augmentation au 1er janvier, comme je l'ai dit, parce que c'est le seuil de dissuasion, mais oui aussi à un contrat d'avenir avec les buralistes. Et ça, je ne suis pas d'accord avec les socialistes qui veulent systématiquement donner la victoire d'un camp contre un autre.
Et là, les buralistes ont vraiment les boules. Le 20 octobre 2003, ils sont dans la rue pour une mobilisation inédite. 95% des bureaux de tabac français ont baissé le rideau.
Boulevard du Montparnasse, un buraliste a tapissé sa vitrine avec cette question. Que veut faire Raffarin de son premier réseau de proximité ? Les 20 000 débitants de tabac défilaient avec un slogan entendu d'un bout à l'autre de la manifestation : Raffarin, démission. La réponse des buralistes se fera dans les urnes. Thierry a son commerce à Bellegarde, en l'Ain.
Puisque nous n'arrivons pas à nous faire entendre, nous donnons rendez-vous à nos élus, enfin à notre gouvernement, aux prochaines élections qui sont apparemment capitales pour eux. La majeure partie d'entre nous ont investi tous leurs biens personnels pour l'achat d'un outil de travail. Et là, on vient nous casser la baraque. Et ça, on n'accepte pas.
Jean-Pierre, lui, a démonté sa carotte et la porte sur l'épaule. Il porte sa croix, confie-t-il. Il tient un bureau de tabac à Villers-la-Montagne. C'est à 7 km du Luxembourg.
Pour la période du 20 octobre, déjà une baisse de 30% par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire 2002. Je suis dans un village. En 1993, j'avais en moyenne 280 clients par jour. Aujourd'hui, j'en ai plus que 130.
Les buralistes les plus touchés sont évidemment ceux qui sont installés près des frontières. Car les clients vont acheter leurs cigarettes de l'autre côté où c'est moins cher.
Rideau baissé, manifestation, les débitants de tabac de Perpignan crient au scandale. Le scandale des hausses à répétition qui, selon eux, mettent en danger leur commerce. Perpignan subit en effet depuis des années la concurrence de l'Espagne et beaucoup de Catalans n'hésitent pas à faire les 30 km qui les séparent de la frontière pour payer le paquet de cigarettes moitié moins cher. Un phénomène qui, bien sûr, s'accentue au fil des hausses. Christian tient un tabac en centre-ville.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent sur le Pertus. Nous, à longueur de journée, on entend les clients qui disent « à la prochaine augmentation, on sera obligé d'aller au Pertus ». Bon, les clients, on les comprend. Eux, ils y sont pour rien, mais nous, on n'en peut plus, quoi. Bon, jusqu'à maintenant, on a perdu à peu près 10%. Mais 10%, c'est vrai que ça paraît pas énorme, mais bon, il y a le côté aussi de tabac, il y a le côté... À côté, surtout, parce que le tabac, c'est quand même un produit d'appel important. Quand ils viennent consommer du tabac, ils consomment aussi des chewing-gums, des briquets, tandis que là, ils prennent plus rien, quoi. Il y en a ras-le-bol, quoi. C'est vraiment trop.
Pour calmer la colère des buralistes, le gouvernement promet qu'ils pourront compenser leurs pertes de revenus en vendant des services qui étaient jusque-là réservés à la Poste. Mais le président du Mouvement pour la France, Philippe de Villiers, n'est pas du tout satisfait.
Écoutez, moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Moi, je vois pourquoi on s'acharne sur les débitants de tabac. C'est un peu comme les 35 heures. Si vous êtes dans un pays ouvert où il n'y a plus de frontières, faire les 35 heures, c'est absurde parce que c'est un appel d'air pour les délocalisations. Et quand on peut aller acheter ses cigarettes ailleurs et que devant chaque magasin, chaque débitant de tabac, il y a de la contrebande. Mmh. Il vaudrait mieux s'occuper de la contrebande et de l'immigration clandestine plutôt que de s'attaquer à cette nouvelle cible des débitants de tabac.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une certaine confusion qui règne actuellement dans l'équipe gouvernementale ?
Moi, j'ai vraiment l'impression que on bricole. Jean-Pierre, j'aime bien Jean-Pierre Raffarin, moi, l'homme. C'est monsieur bricolage.
Et ça n'est toujours pas fini. À la fin de l'année 2003, la SNCF teste des trains sans cigarettes.
L'un des premiers TGV entièrement non-fumeurs arrive en gare de Nantes. Sur le quai, on ne se prive pas de tabac, mais parmi les voyageurs, même ceux qui ont dû se priver de nicotine pendant 2 heures de trajet, trouvent finalement la contrainte assez supportable.
Comme d'habitude, je la fume en sortant du train. Donc voilà, c'est... C'est plus agréable de voyager comme dans des conditions comme ça. Puis la voiture fumeur, de toute façon, on ne peut pas rester dedans, il y a des odeurs, c'est désagréable.
Parce que j'ai arrêté de fumer il y a 6 jours, donc ça m'aide plutôt.
La cigarette tue tout doucement, 250 milliards de morts par an. Certains la disent si célèbre et merdique, est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher, et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita.
C'était La Cigarette par San Severino. En 2003, l'artiste est révélation de l'année aux Victoires de la Musique.
L'année 2003.
Le 21 juin 2003, pour la fête de la musique, la Tour Eiffel scintille à nouveau, comme elle l'avait fait lors du passage à l'an 2000. Et bonne surprise pour les amoureux de Paris, ce scintillement sera ritualisé. Toutes les nuits, chaque heure, la dame de fer s'embrasera pendant 10 minutes.
Elles ont scintillé toute la nuit jusqu'au petit jour. 20 000 ampoules, 5 000 sur chaque face de la tour Eiffel. Un chantier colossal, orchestré depuis près de 10 mois par 25 alpinistes. Et Jean-Paul Jarnias, le papa du scintillement.
Il y a environ 700 guirlandes différentes. Autant de...
Qui clignotent tout en même temps.
Oui, qui clignotent tout en même temps. C'est relié à peu près 300 coffrets. Hein, qui s'est réparti par panneaux et tout ça est ramené à un ordinateur qui pilote le tout. Enfin, c'est un chantier qui est énorme. On a remesuré des côtes, il nous fallait les épaisseurs des cornières, la distance entre deux rivets à certains endroits, l'épaisseur des rivets, le diamètre des rivets. Jusque-là, bien sûr, c'est très très précis, les pièces s'ajustent au millimètre.
Pendant plus de 5 mois, 20 alpinistes ont fixé une par une les 20 000 ampoules sur les poutrelles métalliques.
C'est magnifique, c'est génial, quoi. Il n'y a pas de mots vraiment pour expliquer ça, quoi.
Pour moi, c'est le pouvoir de l'amour.
C'est formidable, mais ça va devenir un peu un symbole de Paris. Ça va devenir quelque chose de très caractéristique de la ville.
Le scintillement de l'an 2000 n'était pas prévu pour durer. Celui-ci devrait, nous dit-on, passer le cap des 10 ans grâce à de nouveaux systèmes électroniques et 20 000 lampes capables de supporter chacune plus de 10 millions de flashs. Ce qui n'était au départ qu'une coquetterie pour la grande dame de fer devient donc partie intégrante de l'édifice.
C'est comme la tour Eiffel qui à l'époque devait être temporaire. Et ben pareil, l'illumination devait être temporaire mais elle devient définitive sur demande des Parisiens. Donc les Parisiens sont écoutés, c'est bien.
Le monument le plus visité à Paris avec 6 millions de touristes par an brillera ainsi 10 minutes au début de chaque heure, jusqu'à 1h du matin en hiver, 2h en été.
Touristes et Parisiens sont enchantés, mais 100 mois plus tard, le dernier étage de la tour Eiffel est en feu. 18 mois après les attentats du 11 septembre 2001 à Manhattan, c'est la panique.
Regarde, regarde ça.
19h20 hier soir, un épais panache de fumée noire s'élève au-dessus de la tour Eiffel. Ces jeunes touristes vivent à New York. Pour eux, c'est sûr, la tour Eiffel, comme le World Trade Center, va tomber. Le feu a pris au dernier étage. À ce moment précis, 3000 touristes visitent la Dame de Fer, symbole de la France. Très vite, une centaine de pompiers sont sur place. Un hélicoptère s'approche. Il tournera autour de la tour Eiffel jusqu'à ce que le feu soit totalement éteint. Parmi les touristes évacués en 3 quarts d'heure, dans le calme, une centaine se trouvait juste au-dessous du foyer de l'incendie.
On a eu quelques odeurs de fumée, donc on nous a dit gentiment de redescendre par les escaliers de secours. Et puis on n'a pas eu d'autres nouvelles.
L'incendie est vite maîtrisé, aucun blessé, juste une grosse frayeur. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, est rassurant.
C'est un lieu mythique de Paris et qui diffuse dans le monde entier. Donc que tout le monde s'inquiète pour la tour Eiffel, c'est bien légitime, mais la tour Eiffel va bien, elle a quand même un petit bobo là-haut.
Évidemment, tout le monde imagine que cet incendie est dû à l'une des 20 000 nouvelles ampoules. Que nenni, répond le gestionnaire de la tour Eiffel, Jean-Bernard Brault.
On pense que c'est vraisemblablement un court-circuit. Comme on vient de refaire la peinture de la tour Eiffel à cet endroit, elle était fraîche, donc elle a brûlé sur les structures, ce qui a donné cette fumée noire qui était impressionnante, qu'on a vue hier soir. Au-delà de cette fumée noire, il n'y avait pas de problème de propagation de cet incendie. Il est resté vraiment dans un périmètre très petit. Donc rapidement, dans les 4 minutes et demie, 5 minutes, les pompiers sont arrivés. On est équipé sur la tour Eiffel de systèmes de relais de pompes incendie. Hein. Donc ils sont montés tranquillement par les ascenseurs, ils ont installé leurs lances et ils ont éteint. Voilà. En même temps, bien sûr, les équipes de sécurité de la tour Eiffel faisaient évacuer tranquillement, dans le calme, les visiteurs de la tour Eiffel. Donc au bout de 40 minutes, il n'y avait plus aucun visiteur sur le monument. Et à aucun moment donné, les visiteurs de la tour ont été en danger, ou inquiétés, ou importunés. Tout s'est passé dans le calme. Voilà, la tour est rouverte ce matin à 9h, tout le monde peut venir en toute sécurité. Et voilà, et aujourd'hui, on reprend le travail et on va continuer à accueillir, j'espère, comme tous les jours, environ 30 000 visiteurs.
Après cet incendie, Europe 1 se faufile en coulisses pour tenter de comprendre comment fonctionne le système de sécurité de la tour Eiffel.
Il est difficile pour nous d'amener de l'eau à partir du sol à 300 mètres de hauteur. Donc, il y a tout un système qui a été mis en place dans la tour Eiffel avec un surpresseur qui est situé au niveau du premier étage. Cette eau est reprise par un système de surpresseur qui est envoyé au deuxième étage. Et donc, à ces deux étages, nous avons de l'eau sous pression qui nous permet d'alimenter des lances incendies. Quant au troisième étage, là, il y a des bâches à eau en permanence qui alimentent des robinets d'incendie armé. Donc, ce qui fait qu'à tous les étages de la Tour Eiffel où il y a du public, nous avons de quoi éteindre un incendie.
Tous les jours, des consignes draconiennes de sécurité sont appliquées. Il est interdit d'avoir plus de 5000 personnes sur la tour au même moment. Le troisième niveau est limité à 300 visiteurs pour permettre une évacuation rapide. Les agents de sécurité de la tour sont aussi formés, entraînés à l'évacuation du public. La vieille dame est également bardée de capteurs électroniques. Une surveillance permanente, explique Jean-Bernard Brault, le président de la Société Nouvelle de la Tour Eiffel.
Il y a des tests, il y a des relais d'incendie avec des capteurs. Et bien sûr, il y a un PC central. Et automatiquement, dès qu'il y a le moindre départ de feu ou fumée, etc., bien sûr, tout de suite, le PC est prévenu. Nous allons dès aujourd'hui re-regarder toutes les procédures, revérifier. Bien sûr, on va en profiter pour mener une enquête approfondie.
You leave and smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend you won't know that I was lying. 'Cause I can't stop loving you. No, I can't.
C'était Can't Stop Loving You, tube de Phil Collins en 2003.
L'année 2003, on te la raconte sur Europe 1.
Le 5 janvier 2003, Francfort en Allemagne vit l'angoisse d'une attaque terroriste. Un planeur à moteur vient frôler les gratte-ciel du quartier d'affaires. 2 ans après les attentats du 11 septembre à New York, la panique est totale.
L'information a circulé un moment que le pilote voulait attaquer le siège de la Banque Centrale Européenne. Plusieurs bâtiments ont été évacués. L'affaire a duré à peu près 2 heures. À 15h, un Allemand de 36 ans s'empare d'un planeur à moteur sur l'aéroport de Francfort. Le pirate, armé, chasse les 2 occupants de l'appareil et décolle. Il est suivi par un hélicoptère de la police. Dans la foulée, l'aéroport est fermé et 2 jets de l'armée allemande se positionnent dans le ciel de Francfort.
Et là, scoop incroyable de la chaîne de TV allemande NTV. Alors que le planeur tourne autour du quartier d'affaires, son pilote est en direct sur la chaîne d'infos en continu. Il veut rassurer tout le monde. Il n'est pas un terroriste. Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste? La police dit que vous vouliez vous écraser sur la Banque Centrale.
Ah mais non. Je veux juste rendre hommage aux astronautes disparus dans l'explosion de la navette américaine Challenger. Il y aura bientôt 17 ans, le 28 janvier 86. L'un des membres de l'équipage, Judith, est mon idole. C'est la première astronaute juive.
Finalement, les 2 avions de combat de l'armée de l'air n'interviennent pas. La zone est trop habitée. Et après 2 heures de rotation au-dessus du quartier d'affaires, le pirate de l'air se pose à court de carburant. Les policiers lui sautent dessus. Il s'appelle Franz Stephan. Il a 31 ans et un Français vivant à Francfort témoigne sur Europe 1 de ses deux heures d'angoisse.
Ça a duré peu de temps en fait, mais deux heures d'angoisse dans une ville comme Francfort, qui est une capitale financière, une grosse métropole, qui vit un peu dans la psychose depuis les attentats du 11 septembre, ça suffit pour mettre la ville sans dessus-dessous. D'abord, les rues étaient toutes bloquées, au même titre que la gare, l'aéroport, et donc les rues internes de Francfort. Et effectivement, les gens avaient les yeux tournés vers le ciel. Les quelques passants que j'ai pu rencontrer marchaient le plus vite possible. Et il y avait vraiment un sentiment d'angoisse à Francfort, on peut le dire. Oui.
Vous avez vu l'avion survoler le centre financier de la ville?
Absolument, oui, on distinguait parfaitement. Il volait très très bas. Des gens ont même dit qu'il volait même une centaine de mètres de la tour de la Banque Centrale Européenne, et qu'il a menacé clairement de s'écraser dedans.
Franz Stéphane effectuera un court séjour en garde à vue, et finalement, il ressortira libre.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2003.
En 2003, trois ans après le terrible accident de Garges-lès-Gonesse qui avait fait 113 morts, le Concorde, le plus beau des avions, prend sa retraite.
C'est donc la fin annoncée de l'un des fleurons de l'aéronautique européenne. Le Concorde cessera de voler avant la fin de l'année. Air France et British Airways en ont pris la décision face à la fréquentation du supersonique qui est en chute libre et face également au coût d'exploitation qu'il représente. La compagnie britannique arrêtera ses vols de Concorde fin octobre, mais en France, le dernier aller-retour pour New York est prévu le 31 mai.
Après 27 années d'exploitation, il était temps d'arrêter Concorde, comme le confie Jean Prunin, l'un des derniers pilotes du supersonique.
Bien, il me semble que l'avion devenait économiquement pas rentable. L'avion commençait à avoir un petit peu vieilli. Il a volé 27 ans en ligne, ce qui est une carrière tout de même exceptionnelle. Et on commençait à avoir quelques petits incidents mineurs, mais qui coûtaient des fortunes à réparer sur cet avion, parce que les pièces de rechange n'existent plus.
Alors, on parle d'une tribu Concorde, en évoquant tous ceux qui ont vécu et travaillé sur cet avion. Pourquoi cet attachement si particulier qui, j'imagine, ne disparaîtra pas avec l'arrêt des vols?
Oh, cet attachement ne disparaît pas. Des clubs de fans existent et...
Vous en faites partie vous-même?
De plus en plus actifs. Alors, la tribu, c'est parce qu'on est un petit groupe, un petit nombre. Il y a 10 pilotes, 10 mécaniciens et 10 copilotes. Il y a une cinquantaine de PNC, c'est-à-dire stewards et hôtesses qualifiés sur l'avion, ce qui veut dire qu'à raison d'une moyenne de 4 vols par mois, vous retrouvez forcément toute cette équipe au moins une fois.
Le 31 mai 2003, le Concorde effectue sa toute dernière boucle au-dessus de Paris. Et même le président de la République, Jacques Chirac, lui lâche un dernier coucou.
Attention, oreilles sensibles, s'abstenir. Dans quelques secondes, Concorde va passer juste au-dessus de votre tête. Et cette fois, c'est sûr, c'est la dernière fois qu'il fait hurler ses réacteurs au nord de Paris. Une ultime boucle entre Roissy et le Bourget. L'instant est historique. Les rayons du soleil sur la carlingue, feu allumé et train d'atterrissage sorti. À sa façon, Concorde vous dit adieu avant d'entrer au musée.
Et qui de mieux pour parler du Concorde que ses habitués, comme le compositeur Jean-Michel Jarre. Il compte plus d'une centaine d'allers-retours à bord.
L'étymologie du mot avion, qui est un mot français, signifie aile volante imitant oiseau naturel. Et je pense que le plus bel oiseau qui a été construit par l'homme, c'est le Concorde, justement. Donc il serait extrêmement regrettable qu'on le tue, au fond. Je pense que ça va être la première fois dans l'histoire des hommes et dans l'histoire des transports qu'on dira à nos enfants, il y a eu un moment où on allait à New York en 3h30. On ne peut plus le faire. C'est-à-dire que ça va être la première fois où on va aller moins vite. Le souvenir principal et l'émotion principale qu'on peut garder du Concorde, c'est au moment où on atteint Mach 2, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la vitesse du son. Pour un musicien, c'est plutôt agréable d'aller au-delà de la vitesse du son. Le plus étrange avec Concorde, c'est au fond l'effacement des distances, c'est-à-dire le fait de se déplacer vers un autre continent. Au fond, c'était un petit peu comme de prendre le TGV, et puis moi je suis lyonnais, et d'aller à Lyon. Au fond, ça, on prenait pas beaucoup plus de temps. Et c'est un petit peu ça aussi qui était assez extraordinaire. Il y a un côté magique dans le Concorde.
Bon, alors comment vous allez faire maintenant pour aller aux États-Unis?
Je dirais que de toute façon, entre la présence de George Bush et la suppression du Concorde, je vais avoir de moins en moins envie d'aller aux États-Unis.
Après sa dernière sortie, le Concorde est exposé au Bourget. Et à la fin de l'année 2003, une vente aux enchères dilapide les souvenirs du supersonique. Les passionnés de l'avion sont ravis, comme le raconte Emmanuelle Vidal, organisatrice de la vente chez Christie's.
C'est hétéroclite et en même temps c'est assez sélectif, puisque parmi les 890 000 pièces qui composent un Concorde, nous avons extrait 220 lots. Qui sont représentatifs de l'avion.
Le plus cher, le moins cher?
Alors, le plus cher, le moteur, les deux réacteurs, estimés 60 000 à 120 000 euros. Le moins cher, le panneau d'annonce automatique, qui servait aux hôtesses et stewards à envoyer des messages, enfin à faire passer des messages enregistrés aux passagers.
Et la vaisselle?
La vaisselle, estimée 200 euros pour un service de 12 couverts.
Le nez?
10 à 15 000 euros.
1300 fans du Concorde s'arrachent ses souvenirs. Les enchères s'envolent 10 fois au-dessus des estimations. Le prix d'un rêve supersonique.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2003.
En 2003, Florent Pagny vit en Amérique du Sud, en Patagonie, où il a embarqué femme et enfant au cœur d'un élevage de 8000 moutons. Mais le voilà de retour en France pour assurer la promotion de son 9e album, Ireland.
Tournez le dos aux canyons arides, aux éoliennes qui tournent dans le vide. S'il y a des mots qu'il faudrait que j'écrase, c'est sur les murs que seul mon ombre rase. J'ai pris le temps d'apprendre la patience à mon allure, de prendre mes distances. Sur la route, je trace les heures qui nous séparent. Je trace à te voir en face. Je trace au marqueur.
Pour ce retour, Pagny affiche un nouveau look. Bouc, tresses blondes, lunettes fumées et manteau en peau de mouton. Il raconte qu'en Patagonie, il a trouvé un nouveau rythme de vie et une envie de retour à un son plus rock.
Oui, je crois que il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une famille, le fait en effet de partir loin comme ça, de vivre un peu exclu du monde dans un pays où il n'y a personne au milieu du désert et tout. Bon, c'est vrai que ça doit inspirer ce type d'album, parce que j'explique, je crois que les choix des chansons ont été faits là-bas, et j'aurais écouté des chansons à décider en ville, à Paris ou à New York, je serais peut-être parti dans des balades. Là, je suis parti dans un album plus rock, un peu plus ironique, avec un petit peu plus de recul sur notre quotidien, un peu speed.
Avant de vivre ici, j'ai connu quelques mondes, bien sûr celui qui brille et qui inonde de fleurs de pacotille, les grands comme les immondes, dans ce drôle d'élevage où les dindes farcies côtoient les oies sauvages, les farines où on se roule ne sont pas animales, et devant la vitrine, la foule pas toujours amical. Et si on te demande, dis-leur, oubliez de m'attendre, car ici c'est ailleurs, ailleurs l'aile. Et si on te demande, dis-leur, je travaille de mes mains, je regarde le ciel, je vais à l'essentiel.
Excellent interprète, Florent Pagny n'écrit pas les textes de ses chansons. Sur Europe 1, il confie comment il choisit ses textes.
J'ai un vrai problème sur les textes, et chaque fois qu'on m'envoie un texte, je dis écoutez, je suis désolé, pour moi tous les textes sont bons, parce que je ne saurais pas les faire, je suis tellement limité dans l'écriture, je l'ai prouvé en faisant mes premières chansons, et Dieu merci, j'ai pu m'adresser à de vrais grands auteurs aujourd'hui, et j'ai dépassé mes limites, donc quand je reçois juste un texte comme ça, je suis désolé, je ne peux pas donner d'écho à ce texte. Il me faut accompagner de la musique, et à la limite, aujourd'hui, presque, il faut qu'on me la chante pour que je me rende compte si c'est vraiment une chanson. Par contre, une fois que je me rends compte si c'est vraiment une chanson, je peux vous dire si c'en est une bonne ou une moins bonne, à mon goût.
Pour Florent Pagny, l'année 2003 est aussi marquée par ses déboires avec le fisc. L'État lui demande des arriérés et lui les conteste. Cette bataille de Pagny avec l'administration des impôts a inspiré une chanson à son parolier Lionel Florence. Ma liberté de penser.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voix voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la Bévière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser.
Vous avez reconnu « Ma liberté de penser » par Florent Pagny, l'un des grands tubes français de l'année 2003. Avec ce titre, Florent Pagny prépare l'opinion, car il doit bientôt comparaître pour fraude fiscale. Le voici chez Ardisson, sur le plateau de « Tout le monde en parle ».
Vous êtes le seul acteur, le seul chanteur qui a des problèmes avec le fisc et qui continue à faire une carrière. Les autres, ils sont obligés de se barrer. Paul Naref, on ne l'a plus jamais revu, quoi.
Richard Anthony,
on n'a plus jamais entendu parler.
La barrière est dans les coulisses, il attend.
Non, mais c'est fou.
Je lui ai dit que ça s'appelle Tout le monde en parle.
Non, mais parce qu'en fait, j'ai pas de problème réellement. Mm. C'est-à-dire, si j'avais un vrai problème, je serais pas là. Donc, c'est qu'il y a eu quelques erreurs de commises de part et d'autre et qu'on va trouver un moyen de s'entendre et que quelque part, ça permet suffisamment d'avoir de recul et d'humour pour pouvoir arriver même avec une chanson qui traite de ça.
Comme payer son redressement avec une chanson sur le sujet, là, c'est vraiment très, très fort.
Mais moi, je suis un peu une sorte d'exception qui confirme la règle et toute ma vie, c'était un peu comme ça, tu vois.
C'est vrai. Vous arrivez, malgré vos problèmes avec le fisc, à garder une bonne image
ou... Ouais, mais bon, en même temps, je cache rien, je triche pas, quoi.
Ouais.
J'ai une fois, quand même, t'as triché une fois.
Mais non, pas du tout.
Non, même pas.
c'est juste qui parce qu'on m'accuse de tricher et que c'est pas vrai que je réagis. Comme les lois sont pas faites, elles sont faites pour tout le monde, et quelque part, on est des cas particuliers. Donc, les lois sont pas faites pour nous, ils le savent, à chaque fois qu'on va les voir, ils peuvent voir, on sait qu'avec vous, les artistes, c'est toujours compliqué. Les sportifs, les artistes, les gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec beaucoup d'argent, bon, c'est toujours un sujet compliqué. Alors bon, à un moment tu dis attendez,
il est extraordinaire, il arrive à leur expliquer qu'il n'était pas comme les autres, il fallait pas qu'il paye tous ses impôts. C'est génial.
Ouais, mais c'est vrai.
Et fin novembre 2003, c'est l'effervescence au tribunal correctionnel de Versailles pour le début du procès de Florent Pagny pour fraude fiscale.
Et l'arrivée du chanteur est vécue comme un événement au très respectable palais de justice de Versailles. L'espace de quelques minutes, secrétaires, juges, greffières et magistrats abandonnent leur bureau pour assister à l'arrivée de l'artiste, considéré désormais comme l'un des poids lourds de la chanson française. De la carrière de Florent Pagny, il a d'ailleurs été beaucoup question à l'audience. En 1996, le chanteur avait reçu un prêt d'1,5 million d'euros de sa maison de disques Universal. Officiellement, ce prêt était censé aider Florent Pagny qui se trouvait dans une passe difficile. Mais pour le fisc, ce prêt trop généreux n'était qu'un artifice destiné à masquer de substantielles royalties versées au chanteur. Une version contestée par Pascal Nègre, le président d'Universal.
Toute la vérité, rien que la vérité, non ?
C'est-à-dire,
je crois qu'on est sur une discussion technique et je pense que j'espère que le tribunal va comprendre et je pense que le fisc se trompe.
Voilà. Au cours de son procès, Florent Pagny assène : je plaide coupable d'une partie de mon ignorance. Gagner de l'argent en étant artiste, c'est une chose, mais savoir le gérer en est une autre. Hein. Il faut se faire taper sur les doigts pour apprendre. Ce genre d'ennui, ça fait réfléchir. Florent Pagny sera finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Et c'est fini pour aujourd'hui. Comme tous les jours, je remercie Guillaume Maury, Julien Pichenet et Pierre-Yves Falson pour la réalisation. La suite de notre balade dans l'année 2003, dans le deuxième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.